Chers frères et sœurs, pourquoi nous obstinons-nous à chercher le vivant parmi les morts? Pourquoi passons-nous tant de temps à nous focaliser sur ce qui ne va pas et en faire notre pain quotidien? Pourquoi sommes-nous tant attirés par ce qui est morbide et mortifère? Pourquoi sommes-nous capables de traverser pour nous rapprocher d'un accident et de passer notre chemin quand il y a un service rendu et de belles choses qui s'accomplissent? Dans une certaine mesure, ce passage dans l'Évangile selon Luc s'intéresse à cette question. Cette question que le messager divin pose aux femmes qui se sont rendues de bon matin au tombeau. Et l'évangéliste nous donne quelques indices pour comprendre la raison pour laquelle nous avons tant de mal à nous orienter en direction de la vie et de ce qui fait vivre. Pour le dire de manière un peu synthétique, Luc pose un diagnostic, et ce diagnostic, c'est que toutes les personnes qui interviennent dans ce passage font preuve d'incrédulité. Je ne dirais pas que ce sont des mécréants, mais je dirais que ce sont des incrédules. Et pourtant, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de la communauté primitive, les disciples de Jésus et les femmes qui ont suivi Jésus jusqu'au pied de la croix. Et ces femmes qui se sont rendues au tombeau avec les aromates. Le fait qu'elles soient avec les aromates montre bien qu'elles n'y croyaient pas du tout. Cela montre bien que ce que Jésus leur avait annoncé était passé par une oreille et ressorti par l'autre. Cela veut dire qu'elles s'étaient levées en se disant qu'il fallait accomplir les gestes nécessaires pour entretenir le corps de Jésus. Pas du tout pour aller constater que Jésus était bien ressuscité, comme il l'avait annoncé, non. Elles se rendent de bon matin au tombeau avec des aromates qu'il s'agira de mettre sur le corps de Jésus pour l'embaumer, pour le maintenir en état, pour faire en sorte que le corps reste autant que possible dans son état. Autrement dit, elles se sont rendues au tombeau sans imaginer que Jésus serait relevé des morts. Elles ne sont pas allées au tombeau pour vérifier que la fameuse annonce selon laquelle 3 jours après sa mort, Jésus serait bel et bien ressuscité serait effectivement réalisée. Elles sont allées au tombeau sans prêter foi à ce que Jésus avait annoncé. Elles ont fait preuve d'une totale incrédulité. Pour ma part, je ne trouve pas cette incrédulité trop inquiétante. À vrai dire, je la trouve même plutôt rassurante. Parce que du coup, cette incrédulité, elle me parle. Elle parle à notre propre incrédulité. L'incrédulité des femmes parle à toutes les fois où nous avons du mal, nous aussi, à adhérer aux paroles de l'Évangile. Toutes les fois où nous avons, nous aussi, du mal à faire quelque chose des promesses de l'Évangile. Toutes ces fois où nous résistons au projet de vie que nous propose l'Évangile. Pourquoi cherchons-nous si souvent le vivant parmi les morts? Eh bien parce que nous avons toutes les peines du monde à adhérer à ce que l'Évangile nous propose. Nous sommes bien trop habitués aux échecs, aux trains qui arrivent en retard, aux sales coups, aux accidents. Nous sommes bien trop habitués à tout ce qui ne va pas, au fait que ça ne marchera pas, pour dire un oui franc et massif à la vie que l'Évangile nous propose. Au fond, nous nourrissons une forme de pessimisme qui relève de l'incrédulité. Nous voyons la vie bien trop comme un vaste problème et trop peu comme l'occasion d'éprouver la grâce et le bonheur pour prendre en compte les promesses de l'Évangile. Au fond, notre foi, c'est qu'il y aura toujours des problèmes. Notre foi, c'est que ça va mal finir. Notre foi, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on souffre un petit peu. Les femmes qui se rendent au tombeau avec les aromates pour embaumer le corps de Jésus sont à notre image quand nous ne faisons rien de l'Évangile. Notre vie est alors attirée par les sépulcres et par ce qui est mortel. Elles auraient pu se rendre en Galilée. Elles auraient pu aller là où Jésus avait manifesté la vie, pour elles-mêmes manifester cette vie. Mais non, elles préfèrent s'abîmer dans la douleur du deuil et se rendre au sépulcre. Les disciples, eux, sont une autre figure de l'incrédulité. Ils refusent de croire ce que les femmes viennent de leur raconter. Le pauvre des femmes est pris pour une gentille rêverie, un délire. Et le texte dit clairement que les disciples ne les croient pas. Ils sont incrédules à l'égard de ce que les femmes leur racontent. Ils sont sans foi au sujet de ce qui constitue pourtant la première prédication de Pâques. La première prédication de Pâques est faite par ces femmes qui s'adressent aux disciples, et c'est un échec cuisant. Ça aussi, c'est toujours précieux pour le prédicateur. Mais cela parle aussi de notre propre incrédulité. Lorsque nous entendons des témoins de l'Évangile nous parler et que nous n'y prêtons pas foi, cela peut nous rassurer sur toutes les fois où nous entendons quelqu'un nous dire une bonne nouvelle, mais que nous n'y prêtons pas vraiment attention. Cela parle à toutes les fois où nous ne faisons pas confiance à quelqu'un, toutes les fois où nous n'adhérons pas à un projet parce que nous n'y croyons pas trop. Nous voyons tout ce qui risque de ne pas aller, mais nous ne sommes pas vraiment attirés par la possibilité d'un résultat extrêmement positif. Nous sommes plutôt retenus par tout ce qui pourrait être une difficulté. Du coup, cela parle de toutes nos fois où nous avons toutes les peines du monde à adhérer à un véritable élan vital. Luc pose comme diagnostic et nos hésitations à nos refus, à nos renoncements, que nous cherchons trop souvent le vivant parmi les morts. Nous voyons plus facilement ce qui ne va pas plutôt que ce qui pourrait aller. Nous voyons plus facilement les problèmes que les perspectives vraiment vivifiantes. Et l'incrédulité que l'évangéliste Luc souligne ici, c'est notre difficulté à dire oui de manière franche et entière à la vie. Dire oui à la vie. En fait, ce n'est pas si facile que cela. Au fond, nous avons bien souvent toutes les peines du monde à réaliser cela. L'évangéliste Luc, qui écrit une quarantaine d'années après la dernière Pâque de Jésus, nous aide à penser la manière d'être chrétien. En ayant pu observer ce qui s'est passé pendant ces dizaines d'années qui ont suivi la mort de Jésus puis l'événement de Pâques, il réfléchit à la manière dont les chrétiens feraient bien de se tenir dans le monde, à la manière dont ils feraient bien de se tenir dans la vie et dans le présent. À partir de la mort de Jésus, il nous propose de réfléchir à la manière juste de vivre avec notre histoire, notre passé, et la manière juste de se tenir dans le présent. Et bien ici, dans le premier récit de Pâques, l'évangéliste Luc interroge notre pente naturelle. Cette pente naturelle que nous avons à nous tourner vers ce qui est contraire à la vie. Et il interroge notre manière d'utiliser le passé pour dire qui nous sommes. Pour le dire peut-être aussi clairement que possible, ne pas trop tourner autour du pot, disons que ce passage biblique dit que le christianisme n'est pas une religion de la victimisation. Par conséquent, nous n'avons pas à tirer parti de la mort de Jésus, comme cela a pu être fait par le passé. Par extension, nous n'avons pas à tirer parti des persécutions dont nos coreligionnaires ont pu être victimes par le passé. Cela serait tout à fait contraire à l'esprit de Pâques. Nous n'avons pas à faire de la Saint-Barthélemy ou de quelque injustice que ce soit un fonds de commerce qui nous assurerait une rente de sympathie et qui obligerait le reste de la société à avoir une dette envers nous. La victimisation n'est pas notre fonds de commerce. Notre fonds de commerce, c'est la vie. C'est Pâques. Le Vendredi Saint est transfiguré par Pâques. Dire oui à la vie, ne pas chercher le vivant parmi les morts, c'est refuser de vivre sur le dos de nos martyrs. C'est refuser de construire son identité sur une violence subie. C'est refuser d'entretenir les stigmates d'un passé douloureux. Faire du malheur un fonds de commerce reviendrait à nous condamner à la peine éternelle. Nous serions à jamais des victimes. Alors, bien entendu, être victime, ça fait de nous quelqu'un. Mais cela est tout à fait contraire à l'esprit de l'Évangile. L'Évangile de Pâques, c'est que toutes ces personnes qui sont dans le deuil pour une excellente raison n'ont pas à s'abîmer dans le deuil et elles n'ont pas à entretenir le souvenir de la mort de Jésus. Les aromates sont inutiles. Il ne s'agira pas d'embaumer le corps de Jésus. Il ne s'agira pas d'avoir une relique du corps de Jésus que nous pourrions brandir pour rappeler les offenses qui ont été commises à notre endroit. Comment adhérer à la vie? Comment ajouter de la vie à la vie si ce qui nous fonde est un malheur, une injustice, un décès? Cela reviendrait à faire communauté en nous réunissant contre un agresseur, contre une autre communauté qui nous aurait causé du tort. Dès lors, nous nous maintiendrions dans un état de victimisation permanente et tout ce que nous penserions, dirions ou ferions serait dirigé vers ce mal originel qu'il faudrait entretenir pour continuer à exister. La foi chrétienne trouve son origine en Pâques parce qu'elle refuse de céder aux sirènes du malheur. La foi chrétienne trouve son origine en Pâques parce que c'est l'événement à partir duquel les chrétiens ont décidé que leur histoire ne serait pas sacrifiée sur l'autel du deuil permanent. La foi chrétienne trouve son origine en Pâques parce qu'il y a là tous les éléments nécessaires pour construire une identité qui ne soit pas une identité de victime. Et que précisément, nous puissions surmonter cette tentation de chercher en permanence le vivant parmi les morts. Tous les disciples n'ont pas réagi immédiatement. Il a fallu du temps à tous les disciples de Jésus, et plus encore à certains, pour ne pas faire de leur foi naissante une religion de la mort. Cela leur a pris du temps, parce que nous sommes enclins à être fascinés par ce qui est morbide. Mais au regard de la prédication de Jésus qu'ils avaient écouté passionnément, sans forcément lui accorder tout le crédit nécessaire, et ils se sont rendus compte que l'Évangile était une déclaration d'amour à la vie, un amour inconditionnel, un amour radical pour la vie. Et pour ce qui fait vivre. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas à conserver leur douleur intacte, à grand renfort d'aromates ou de tout ce qui pourrait, dans notre vie, maintenir les choses en état. Tous ces gestes qui permet de maintenir intacte la trace des offenses subies. Ils ont réalisé que la foi chrétienne était l'art et la manière de ne pas s'abîmer dans le deuil, dans les échecs, dans les tourments, dans la tristesse. Ils ont réalisé que la foi telle que Jésus leur avait fait entendre était la possibilité pour eux d'orienter toute leur existence vers l'au-delà du mal et de ce qui fait mal. Parce que bien évidemment, si nous sommes obsédés par un mal originel, alors toute notre vie prend successivement la couleur du mal. Et nous ne pouvons pas faire autrement que mal faire nous aussi. Pâques, qui inclut le Vendredi Saint sans lui donner une place prééminente, sans considérer que le Vendredi Saint est le point ultime de l'histoire, nous saurions mieux le dire à toute personne désireuse de comprendre ce que signifie Pâques, de comprendre ce que signifie la foi chrétienne, ce que nous sommes appelés à vivre, comprendre ce que signifie cet encouragement à chercher le vivant parmi la vie, que dans les mots d'Abigail Bassac dans son éditorial d'Évangile Liberté du mois de avril 2018. Petite publicité gratuite. Mais il y a parfois des textes qui sont indépassables. Et je ne saurais mieux finir cette prédication qu'en vous lisant ce qu'elle a écrit. Nous aussi, nous avons été crucifiés. Au certes, ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas sur une croix dans les années 30 en Judée. Ce n'était pas au vu et au su de centaines de personnes. Nous ne sommes pas littéralement morts. Mais nous avons tout de même été crucifiés. Par les paroles de mort, par le rejet, par l'indifférence, par la trahison, le mensonge, l'injustice, l'incompréhension, la violence physique, la chosification, l'arrachement, la solitude et tant de souffrances encore. Oui, nous avons été crucifiés. Et peut-être n'y avait-il personne pour prendre soin de nous au pied de la croix. Nous avons alors ressenti l'absurde, le non-sens. C'était notre Vendredi Saint à nous. Puis est venu notre samedi de vide. Combien de temps a-t-il duré? Quelques heures, quelques jours, des mois, voire des années, pour ceux d'entre nous qui ont connu les plus lourdes épreuves. Oui, nous avons été crucifiés, mais l'histoire, notre histoire, ne s'arrête pas ce samedi. La mort n'aura pas le dernier mot. Nous aussi, nous serons ressuscités. Quand nous entendrons une parole de vie à laquelle nous accorderons du crédit, de la foi, alors nous serons ressuscités. Quand nous cesserons de nous débattre avec la mort et que nous nous abandonnerons dans les mains de la vie, alors nous serons ressuscités. Quand enfin nous croirons la promesse qui nous est faite, que les textes bibliques charrient et tentent de communiquer, quand quelqu'un nous aura prêché, qu'il soit un pasteur en chair ou un ami autour de la table d'un dîner, alors nous serons ressuscités. Et ainsi ce sera dimanche. Ce sera le printemps à nouveau. La vie aura retrouvé de la saveur, du sens, de la chaleur. Les jours seront plus longs que toutes les nuits. Nous aurons été ressuscités. Et nous vivrons pour ce à quoi nous avons été appelés, pour la joie et pour la vie.